Good Morning Business, l'expert.
Et oui, effectivement, avec plusieurs experts, du coup, pour commenter ce chiffre qu'on attend tous, un chiffre donc d'inflation au mois d'avril, première estimation de l'INSEE, 4,8% pour l'inflation française sur un an. Et si on prend le chiffre harmonisé au niveau européen, on est à 5,4%. Pour commenter ces chiffres, on est avec Denis Ferrand, économiste et directeur général de Rexecode, et Augustin Landier, professeur à HEC, aux côtés évidemment de Nicolas Dose. Alors, un premier commentaire, Denis Ferrand, sur ce chiffre qui s'accélère. On était à 3,6 en février, 4,5 en mars. Maintenant, on est à 4,8.
Surtout, ce qui est important, me semble-t-il, c'est le changement de nature de l'inflation. Quand on regarde sur un mois, l'inflation de l'énergie recule.
Oui. Normalement, il y a eu la prime des 17 centimes.
Voilà. Il y a eu la prime des 18 centimes. Mais dans ce cas, comme il y a une accélération, il faut regarder où est-ce que cela accélère. Et cela accélère sur l'alimentaire, sur les produits manufacturés et sur les services. Donc, on a en fait un déplacement, on change de nature dans le sens où jusqu'à présent, on avait un choc de prix qui était très concentré sur l'énergie et désormais, on est en train de connaître peut-être un petit peu plus une mécanique inflationniste parce que c'est une diffusion du choc de prix à l'ensemble du système de prix.
Vous voulez dire que c'est de plus en plus inquiétant? Ça veut dire que cette inflation, elle pourrait s'installer?
En tout cas, elle prend un tournant qui est effectivement un petit peu plus installé. Ce qui va être désormais le juge de paix, c'est de regarder ce qui va se passer sur les salaires, comment les salaires vont réagir. On sait qu'au 1er mai, on a l'augmentation du SMIC qui va intervenir. Et comment, dans ce cas, si les salaires réagissent, comment est-ce que cela se diffuse plus largement dans l'ensemble des services?
Alors, Augustin Landier, c'est très embêtant tout ça, parce qu'en plus, on a appris il y a un peu plus d'une heure le chiffre de la croissance française au premier trimestre, 0%. L'économie française en panne. Alors que la veille aux États-Unis, l'économie américaine, elle carrément recule, moins 1,4% pour le PIB américain. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'économie mondiale?
Je dirais on est un petit peu en train de danser au milieu de trois volcans. Donc il y a un volcan qui s'éteint, qui est le Covid, mais qui est encore là et qui a un gros impact sur la Chine. Et donc ça participe à une aggravation des problèmes d'approvisionnement qui du coup se retrouve sur les prix. Et puis il y a un volcan qui se réveille, qui est la guerre. Ça c'est assez nouveau, mais ça s'installe. C'est-à-dire qu'on pensait peut-être que c'est là pour 3 mois, 6 mois. Non, ça s'installe de manière durable. Et ça aussi, ça fait que ces chocs qu'on espérait temporaires sont en train de s'installer. Et puis il y a un volcan qui s'était déjà réveillé, mais qui continue, qui est l'environnement, et qui finalement fait que les politiques, on a installé des institutions qui ont pour but, au fond, d'augmenter le prix de l'énergie. Donc ça, faut pas se raconter d'histoire. On va pas miraculeusement engager des politiques qui consisteraient à faire du gaz de schiste en Europe, certainement pas, mais même aux États-Unis, les politiques doivent répondre à la demande très forte des populations pour des politiques environnementales sérieuses.
Et puis il y a quatrième volcan qu'on croyait endormi depuis des décennies, celui de l'inflation quand même, parce que du coup tout ça...
C'est une conséquence. Ouais. Je pense qu'il faut voir ce volcan, effectivement, comme une conséquence de ces trois autres. Et alors lui, pour le coup, il peut réveiller, si on continue un peu sur les métaphores comme ça, de catastrophes naturelles, je crois qu'il peut réveiller des tsunamis qu'on espérait pouvoir éviter. Il y a d'abord la question de la dette qui va revenir, et là, la France n'est pas bien positionnée. Elle est bien positionnée sur pas mal de sujets, parce qu'on ne dépend pas tellement des énergies, on n'a pas une industrie comme les Allemands, on est très orienté sur les services. Donc finalement, on n'est pas si mal positionné pour faire face au choc énergétique. Mais en revanche, on a une économie très endettée, pas seulement la dette publique dont on parle tout le temps, mais la dette des entreprises qui va commencer à poser question avec la remontée des taux que la BCE ne pourra pas éviter. Et puis après, il y a le tsunami un peu démocratique qui est que il va falloir répondre aux populations parce que ça aggrave en fait cette polarisation dont on parle tout le temps, mais qui ne fait que s'aggraver. Les populations qui sont les plus touchées sont précisément celles qui sont en colère. Donc là, on va retrouver un peu la colère dont les gilets jaunes avaient été la première incarnation, mais là, eux, ils se trouvent confrontés en fait à un choc qui est un choc beaucoup plus fort que celui qui avait éveillé leur première révolte.
Et de différence, est-ce que depuis 12 heures là, entre les États-Unis hier soir et la France ce matin, avec ces deux chiffres, PIB et inflation, on est en train de changer de monde?
Alors attention, c'est pas de même nature entre les États-Unis et la France. Dans le cas des États-Unis, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la demande interne. Elle est encore très dynamique aux États-Unis. La consommation, l'investissement sont présents. Et ce faisant, ça vous draine un flux d'importation extrêmement important. Et en réalité, l'essentiel de la contraction du PIB s'explique par le fait qu'il y a eu beaucoup d'importations aux États-Unis. Ce qui révèle aussi, en creux, que les États-Unis ont du mal à tenir la cadence. On importe beaucoup aussi parce qu'il y a des blocages de production un peu de partout. Et c'est quelque chose que les économistes mesurent très mal. C'est-à-dire les conséquences des blocages d'approvisionnement, des retards qui sont pris. Je vois par exemple en Allemagne, quand vous regardez l'indice de production, il est complètement flat, alors que l'indice des commandes ne fait que s'accroître. Et en fait, fait, il y a des retards très importants qui se prennent dans la production. Et en fait, les économistes mesurent très mal les contraintes d'offres, ce qu'elles vont exercer en termes de blocage de croissance. Et c'est un des éléments aussi qui peut contribuer à expliquer la faible croissance américaine.
Nicolas. Je vais être beaucoup plus court terme et beaucoup moins analytique que mes deux camarades. Il n'y a pas de risque de récession a priori en 2022, parce qu'on a terminé... La croissance d'une année se regarde à l'aune de l'acquis de croissance de l'année qui précède. On termine 2021 avec 2,4 d'acquis de croissance, on fait 0. On est en mars à 2,4 d'acquis de croissance. Si on fait 0 toute l'année, on termine avec 2,4. Clairement, la prévision à 4% du gouvernement est morte aujourd'hui. Deuxième élément, vraiment là, dans l'immédiat, la BCE doit remonter ses taux. Elle ne peut pas ne pas remonter ses taux. Elle va le faire avec la prudence des hérissons qui font l'amour, comme disait un de vos prédécesseurs sur BFM Business, mais elle va le faire, c'est pour la crédibilité de la monnaie. On voit que l'euro est en train de baisser par rapport au dollar, ce qui est anormal dans une zone qui est avec une balance des paiements courants excédentaire. Et le troisième élément, c'est qu'il y avait donc le volcan social évoqué par Augustin Landier, et bien j'ai la conviction que dès le 1er août, on va conserver des perfusions pour le pouvoir d'achat des ménages, quoi qu'il en coûte.
Bah, le temps qu'il faudra. Vous avez vu le collectif budgétaire, ça va être monstrueux.
On verra ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais voilà, ça c'est vraiment du très court terme. Maintenant, si le ralentissement se confirme, oui, la récession de 2023, c'est une possibilité.